RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se t'afferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Ah, ils sont là, nos coachs français, toujours souriants, avec la bonne humeur, du punch, qu'on a entendu José Anigo, on a entendu qui encore? Jean-Guy Wallem, vous avez reconnu leur voix. Magnifique. Daniel Riolo, Jérôme Rotten. Avant d'accueillir notre invité, les gars, les scores définitifs en Angleterre ce soir. Tottenham a gagné face à Brighton 1-0, c'est important dans la course à la Ligue des Champions. Et puis le match Watford-Southampton avec donc le but le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue, c'est fini à 1 partout. Et figurez-vous que l'égalisation, elle est venue quand? Forcément dans le temps additionnel. Les mecs ont marqué au bout de 7 secondes le premier but et l'égalisation dans le temps additionnel. Et puis le Barça actuellement mène 2-0 sur le terrain d'Alavés. La différence est faite avec notamment un penalty de Suarez. Et puis en demi-finale de la Coupe d'Allemagne, Leipzig l'emporte à Hambourg 3-1. Leipzig en finale. Voilà. 23h02. Messieurs, je vous demande d'accueillir Dominique Fournet. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Dominique, comment te présenter pour être clair? Je suis spécialiste en posture. Est-ce que c'est pas un petit raccourci?
Oui, c'est un petit raccourci. Oui, spécialiste des préférences motrices.
Des préférences motrices.
Préférences motrices.
Ah, c'est, non, mais c'est plus clair.
C'est plus clair.
Non, c'est vrai. Alors, évidemment, certains nous écoutent à la radio, donc il va falloir qu'on soit vraiment très pédagogique pour se faire comprendre à la radio. C'est d'autres regardent RMC Sport News. Ce sera plus simple. Ça veut dire que tu analyses. Alors là, on parle de foot ce soir,
oui,
mais
sûr, oui.
Tu travailles aussi sur d'autres sports,
bien
tu es assez sensible au golf.
Oui.
Donc, tu es capable d'analyser effectivement les préférences motrices des sportifs de haut niveau et surtout d'en tirer les conclusions sur leur performance.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on s'aperçoit que quand on regarde un sport, et le foot en particulier, que tous les champions font pas la même chose. Certains font d'une manière, l'autre de l'autre, et on voit tout. Et tout ça, c'est vrai, c'est une vérité. Maintenant, qu'est-ce qui est bon pour le joueur? Qu'est-ce qui est bon pour la personne? Et nous, donc, on donne des repères à la personne, en lui disant, voilà, le fonctionnement, ton fonctionnement naturel, inné, instinctif, qui ne change pas. Voilà, c'est plutôt comme ça que tu fonctionnes. Ensuite, à toi d'adapter, en fonction du contexte, ta technique au contexte.
Alors, ça, c'est déjà, quelque chose d'important, parce que souvent, les entraîneurs, au foot en particulier, dans d'autres sports encore plus, notamment, je pense à la natation, des sports comme ça qui sont très techniques, on a tendance à vouloir imposer des façons de procéder.
Bien sûr.
À aller contre nature.
Souvent, ça peut aller contre nature. C'est-à-dire que tant qu'on met les techniques ou les tactiques avant le joueur, on pense que le joueur est une pâte à modeler où on va dire, tu joues à droite, joues à gauche, de toute manière, c'est pareil, t'es doué, et ainsi de suite. Et puis, on s'aperçoit que c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, Jérôme qui est là, était nettement meilleur à gauche qu'à droite. Il aurait pu jouer à droite. Mais est-ce qu'il aurait fait la carrière? Je sais pas, faudrait lui demander, mais, voilà, c'est, et on s'aperçoit que surtout à un très haut niveau.
Il aurait été comme Candela, il serait rentré en permanence, là.
S'il y a des joueurs, on s'aperçoit, qu'il y a des joueurs tout le temps, on dit, mais pourquoi ils débordent pas? Et puis, on s'aperçoit qu'ils débordent peut-être à l'entraînement, mais dès que le contexte change, dès que ça va vite, il revient sur un réflexe naturel, archaïque. Nous, on parle de survie, qui fait que il s'organise comme ça.
Alors, quelles sont les grandes caractéristiques que chacun a en lui? Même les amateurs, parce que les amateurs qui nous écoutent, là, ça va leur parler.
Bien sûr. Alors, après, le principal, c'est que on est sur deux pieds, on est bipède. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on tienne en équilibre. Et donc, la nature nous a donné un équilibre avant, un équilibre arrière.
Donc, soit on est équilibre arrière.
Alors, on est les deux, sauf qu'on a une préférence. Comme j'ai deux mains, vous en avez deux mains, on a deux pieds, sauf qu'on a une main préférentielle qui nous permet justement, quand ça va vite, de pas réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, d'être dans la spontanéité. Et au football, où ça va très très vite, et surtout avec les professionnels, on doit être dans la spontanéité. C'est pour ça que dès que on peut tout faire, j'allais dire, à l'entraînement, où on va tranquillement, on peut faire à droite, à gauche, mais dès que ça va vite, ressort instinctivement, j'allais dire, le geste naturel.
Alors, je propose, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, prenons le cas de deux joueurs qui sont très différents, Neymar et Mbappé.
Oui.
Alors, allons-y. Ils ont des caractéristiques très différentes.
Alors, ils ont des points communs, ils vont tous les deux très vite, voilà. Mais surtout de la manière de Mbappé, la manière dont il conduit le ballon, dès qu'il accélère, dès que ça va vite, c'est toujours extérieur du pied. À chaque fois qu'il y a une accélération, tout de suite, c'est extérieur du pied.
Alors instinctivement, Neymar, il va aller...
Instinctivement, c'est là où il va où il se coordonne le mieux, où tout son corps se coordonne le mieux. Neymar, c'est juste intérieur du pied, où ça va très vite. Bien sûr, il peut faire extérieur, il peut faire intérieur.
Je vous coupe pour question. Donc, l'apport de vos études, c'est, à partir du moment où on fait ce constat, qu'on voit que le mec se comporte de cette façon-là, si un club qui affronte le PSG fait appel à vos services, vous dit ben regardez ce que fait Mbappé, ça. Généralement, là où il aura le plus de difficultés à jouer, c'est s'il vient à l'intérieur. Donc, essayer de contrôler l'extérieur, c'est là où il va le plus vite.
Oui, tout à fait.
Même s'il court plus vite, machin, il va passer un, mais en tout cas, on est prévenu.
Alors, le PSG ne nous appelle pas, ou pas encore, j'espère, mais d'autres clubs
mais
nous appellent.
Clubs qui le font.
Bien sûr, qu'ils le font, et c'est ce que nous on apporte. C'est-à-dire que on apporte juste une vision différente. Du joueur. On va pas dire au coach ce qu'il a à faire. On lui dit voilà, ce joueur, il fonctionne mieux comme ça. Après, tu en fais ce que tu veux. On va pas changer. On prend la place de personne. J'allais dire. Sauf qu'on donne des informations au coach supplémentaires pour qu'ensuite il puisse mieux appliquer sa tactique. On le voit souvent sur les coups de pied arrêtés, par exemple. Je prends un exemple d'un club avec lequel on a travaillé qui avait pris 7 ou 8 buts sur coup de pied arrêté jusqu'en décembre, qui après, simplement en repositionnant les joueurs en fonction de leurs préférences, n'a pas pris de buts sur le reste de la saison sur les coups de pied arrêtés.
En les positionnant défensivement.
Défensivement, d'une autre manière, avec une vision meilleure.
Ça vous transmettez ce genre d'infos, l'entraîneur enregistre et peut modifier le placement de ses joueurs et d'un coup ça fonctionne
ouais,
comme
tout
ça.
À fait. C'est que ça. Il jouait en zone. Ensuite, il s'est...
J'ai raté. On peut pas dire qui.
Bah, quoi, j'ai pas envie de parler. Non, c'est pas à dire avec.
Voilà. On sait.
Oui, oui.
Donc,
on sait.
Voilà, mais, donc, voilà, c'est ce jouait professionnel. Donc il y a un entraîneur, et qui dit là, une fois que vous avez donné les conseils, ils ont plus pris de.
C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'ils jouaient, en zone. Ils ont pris des buts. Après, ils ont essayé de jouer en marquage individuel. Ils ont pris des buts. Après, nous, on a analysé avec la vidéo, justement, le placement des joueurs, ainsi de suite. Et comme on avait fait tout le profil de tous les joueurs, on s'est dit, lui, il est ici. Mais ça se joue à 50 centimètres, hein. Ça se joue pas sur, mais sauf qu'il démarrait plus vite, il était plus vite. Et que, ensuite, le coach a mis la tactique qui semblait la meilleure avec des informations supplémentaires. Et c'est ça qui est l'intérêt
de notre
travail.
Ça, c'est concret.
Jérôme,
ça
c'est concret. Nous, on est que concret, hein. De toute manière,
Jérôme, dans ta carrière, t'as déjà eu des approches comme ça? Les postures.
Des darons, j'ai rien de tout ça.
on n'a pas eu ces approches-là. Alors après, le foot s'est développé. Il y a plein de choses qui rentrent aujourd'hui en jeu pour améliorer. Hein, et je suis sûr que c'est un bon complément.
Bien sûr.
Dominique a fait les tests sur toi avant l'émission.
Ouais. Non, mais c'est
intéressant. T'as été bluffé ou?
Non, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que souvent, et encore plus moi, le football que j'ai connu avec les éducateurs ou les entraîneurs que j'ai eu par la suite, ils essayent de te faire changer des choses. Et t'as un mécanisme qui revient. On a tous un point fort, et surtout quand t'arrives au très haut niveau, t'arrives pas au très haut niveau par hasard. Je veux dire, c'est que si t'es là, même si certains vont te dire c'est grâce à un entraîneur parce qu'il plaît bien, mais t'as un point fort, un point qui est au-dessus de tous les autres. Ça c'est comme ça et ce point-là bah il revient toujours, c'est un mécanisme. C'est vrai que moi je reviens à l'intérieur de mon pied gauche, je m'en suis servi, c'est ça qui a fait le bonheur de ma carrière.
Bien sûr. C'est
grâce à ce pied-là et surtout à l'intérieur du pied que j'ai réussi des choses.
Et Jérôme, les tests que Dominique tu as fait faire à Jérôme montrent que Jérôme c'est l'intérieur du pied.
Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on a vu dans les tests mais
ça sans le savoir, t'imagines.
Bien sûr, mais c'est nous on fait juste
très très fort.
Nous notre boulot c'est juste faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'aux coachs et ainsi de suite, on leur fait gagner du temps. Si on est en contrat avec des joueurs en individuel, on va pas dire aux joueurs qu'est-ce qu'ils doivent faire, surtout au niveau avec lesquels on travaille. Si j'avais travaillé avec Jérôme, j'aurais jamais dû lui dire fais ci, fais ça. Il sait le faire. Sauf qu'on peut faire gagner du temps et surtout on gagne en confiance parce que comme l'a très bien dit Jérôme, il faut aller sur ses points forts. Malheureusement, on va trop sur des points faibles. Mais pour gagner, c'est d'aller sur ses points forts. Et c'est notre philosophie. Tout
alors, 32-16, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions à Dominique.
Les entraîneurs disent bien sûr qu'il faut travailler. Ça, c'est la grande phrase que j'entends dans toutes les écoles de foot. Il faut travailler ton mauvais pied. Travaille ton mauvais pied. Moi, j'ai un entraîneur.
Plutôt que de travailler le point fort.
Il m'a toujours dit, écoute, travaille ton point fort, c'est ton pied gauche, tu travailles ton pied gauche, travaille-le. Après, le pied droit, on aura le temps de le travailler. Bien sûr qu'il faut pas le laisser de côté. Mais la base, c'est de travailler ton point fort. Il faut insister là-dessus. Tu vas pas faire changer un joueur. Dire, moi, j'en avais rien à faire d'avoir deux, même en jeune, d'avoir deux pieds moyens. C'est quoi le but? C'est d'avoir un bon pied déjà, un bon pied, un bon œil au football. Bah, du moins, moi, ce que je pense, c'est ça. Et c'est la, et tous les grands joueurs, ceux qui sont tout là-haut, c'est ce qu'ils ont. Ils ont soit, il y en a certains, ils ont deux très grands pieds. Mais ils ont un bon pied, un bon œil. Parce que l'œil, ça va tellement vite que c'est important aussi, hein.
Alors, Dominique, on va faire un truc. Parce que moi, je l'ai fait avec Dominique, ce test-là. Vous l'avez pas fait, vous, les gars. Et tout le monde peut le faire, même à la radio.
Même à la radio. Sauf peut-être ceux qui sont dans leur voiture et qui conduisent.
Ah oui, quand c'est on conduit, c'est pas possible. Voilà, arrêtez-vous. Pas... Alors, c'est le fameux test des bras croisés.
Oui, ben, on va juste croiser les bras. Bon, on va croiser les bras. Voilà, comme ça.
Croise les bras.
Voilà, tous ceux qui nous écoutent,
croisez
les bras.
Genoux, j'y arrive.
Voilà. Et puis, si, alors ceux qui sont à la télé, on voit que Jérôme a le bras gauche en dessous, et puis moi j'ai le bras droit en dessous. Gilbert, c'est le bras droit, et bras gauche pour Daniel.
Moi, voilà. J'ai en dessous.
Le bras gauche.
Non, j'ai la main gauche, voilà. Qui est au-dessus là.
Ouais, et moi c'est la main droite qui est au-dessus.
Ah d'accord.
Okay. Alors, ce que disait Jérôme, on peut tout faire, donc on va croiser les bras dans l'autre sens, ça on peut le faire. Donc allez-y.
Bah non, c'est super dur.
Et sauf que c'est compliqué, puis on n'est pas à l'aise.
J'ai réussi.
Oui, on réussit. Non, mais c'est pas qu'on réussit pas, mais on est.
Réussi, là.
Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas à l'aise. Et c'est ça le problème.
Je suis pas à l'aise du tout là.
C'est pas à l'aise du tout.
Non, mais toi, on dirait un Goliot. T'as mis les deux mains à l'extérieur. Écoute-moi. Regarde. Non, regarde-moi sous tes mains.
Moi, je suis très à l'aise.
Ouais, mais non, t'es pas à l'aise du tout.
Non, mais c'est vrai que c'est flippant ce test. Et tu te rends compte que c'est super dur.
Oui, ok, d'accord. Ça veut dire quoi ce test?
Ça veut dire. Bah, ça veut dire ce que disait Jérôme. Si on vous dit non, c'est moi qui suis champion. J'ai le bras droit en dessous. Faut faire tous comme moi. Non, là, c'est bras gauche. Faut faire tous comme moi ici. Voilà, oui, c'est ça. Et, bah, à un moment donné, il y a une perte de confiance parce qu'on va dire, mais j'y arrive pas, c'est compliqué, lui, il y arrive, enfin, voilà. Donc, ça amène justement parce que on essaye de prendre des modèles qui sont, qui correspondent pas à la personne. Donc, nous, notre métier, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas mieux d'avoir le bras gauche en dessous, le bras droit en dessous. Simplement que si on veut réussir une tâche, bah, vous y arriverez mieux avec le bras gauche en dessous et puis moi, j'y arriverai mieux avec le bras droit en dessous. C'est-à-dire que notre talent va s'exprimer comme ça. C'est surtout ça qui est important.
Alors, pour matérialiser ça sur un terrain de foot, je prends un exemple récent. Choupo-Moting.
Ah.
Quand il rate son truc. Peut-être qu'en fait, il est dans sa zone pas de confort naturel, et qu'en fait, il n'arrive pas à faire le truc parce qu'il ne peut pas le faire. Comme tu n'arrives pas à croiser tes bras à l'envers.
Bah, c'est-à-dire que oui, il faudrait revoir. Enfin, moi, j'ai revu l'action, bien sûr, et puis il faudrait, on se doute un peu du profil de Choupo-Moting, mais voilà, si c'est ces choses qui paraissent tellement, bizarres, le but de Dorea qui prend sur la frappe, c'est même pas une frappe de Messi. Ouais. Comment il fait pour rater le ballon? Des immanquables, comme on dit des fois. Pourquoi il rate le ballon? Et généralement, on s'aperçoit que il manque toujours de la même manière. Ils peuvent marquer de plusieurs manières différentes. En général, on trouve 70-80%, c'est à peu près toujours de la même manière, tout au moins. Mais quasiment, j'allais dire 100% des buts ratés sont ratés à cause d'une coordination qui était pas une prise d'information qui était pas assez bonne. Le corps a pas pu se coordonner, ça allait trop vite, et c'est souvent ça qui est
alors
qui est
justement pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait imprimé. Deux exemples encore précis, comparons la façon de procéder pour marquer un but de Giroud et de Cavani, parce que c'est deux opposés.
Oui, alors là on est sur quelque chose qui ne change pas. Il y a des choses qui sont un peu plus dynamiques et qui bougent, mais ça change pas. Ce qu'on appelle l'horizontalité ou la verticalité, c'est-à-dire que comment je prends l'information. Est-ce que j'ai l'information comme on va prendre par exemple comme Giroud, où mon corps est face au but?
Où sa ligne d'épaule est parallèle à la ligne de but.
Parallèle à la ligne de but. Et il préfère avoir des ballons qui arrivent avec un angle.
C'est vrai que quand on se rappelle des buts de Giroud, les trois quarts du temps, comme ça, il a de la réussite.
Alors que Cavani, lui, il préfère ce qu'on appelle quelqu'un de vertical, il prend l'information quand son corps est orienté vers le ballon.
Donc lui, sa ligne d'épaule est perpendiculaire.
Perpendiculaire. Et là, il prend une information. Après, il peut faire tout ce qu'il veut. Nous, on dit, il est chez lui. Une fois qu'il est chez lui, on peut aller n'importe où après. Mmh. Mais une fois qu'il a pris l'information, parce que il n'y a pas que l'œil, c'est important, mais il y a d'autres critères aussi dans la prise d'information. À ce moment-là, il peut contrôler, il peut faire différentes choses. Sauf que, quand c'est pas dans ce cas-là, parce que le contexte amène comme ça, c'est plus compliqué à se coordonner. Et généralement, les buts de Cavani, quand on regarde un petit peu, celui qui rate des choses qui paraît l'année dernière, il en a raté beaucoup. Mmh. On se disait pourquoi. Mais quand on regarde sa position de son corps au départ du ballon,
c'était pas naturel pour lui.
Bah, il était toujours orienté face au but.
Alors là, concrètement, ça veut dire qu'un défenseur, Jérôme Daniel, si c'est ça, il va devant Cavani en essayant de se placer de telle façon que Cavani ne peut pas se mettre perpendiculairement
au but. Les joueurs jouent avec lui d'essayer de lui donner le ballon dans les meilleures conditions.
Dans les meilleures conditions et surtout avec lui si un jour...
D'où les automatismes.
D'où les automatismes et surtout trouver un déplacement qu'il a naturellement. Jérôme, il se déplaçait naturellement, c'était pas la peine. Cavani se déplace naturellement. Mais c'est faire prendre encore plus conscience de ça pour qu'il puisse trouver justement un déplacement qui corresponde à sa meilleure expression.
Si non, on parce prend que les... ça sert plus, et je suis d'accord, ça sert plus aux joueurs, ça sert plus à Cavani. Mmh. Toi, tu prends l'exemple des défenseurs qui vont jouer contre Cavani.
Mmh. Ouais.
Mais franchement, le football, ça va très vite. Gilbert, tu joues au football au niveau amateur, bien sûr que ça va 10 fois moins vite qu'au niveau professionnel, mais quand même tu te rends compte que quand t'es sur le terrain ça va tellement vite que même si tu
t'as pas le temps de te dire attends là c'est Cavani en face de moi, attends, il faut que je me mette comme ça.
Non, mais ça va vite, tu peux essayer de l'emmener,
tu peux quand même préparer,
la spéciale de
attends je vais te prendre l'exemple je vais te prendre mon exemple excuse-moi
ouais, vas-y.
Je vais te prendre mon exemple, tu peux préparer. Moi, ils ont tellement essayé de me préparer parce que moi, en effet, j'avais à l'intérieur du pied gauche. Je m'en sers souvent. La grande phrase sur moi, c'était, et c'est vrai, à juste titre, c'était je contrôle ouvert avec mon intérieur du pied et j'enroulais, je centrais sans forcément déborder. Tu vois, je contournais, j'arrivais à contourner même de très loin mon défenseur. Dire, ils le savaient tout ça. Pourquoi ils ont jamais réussi?
Parce que c'est la vitesse d'exécution derrière.
Eh ben oui, donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Mmh. Puis après il y a plein de paramètres. Ce que je veux dire, il y a la fatigue, il y a le contexte aussi, hein, qui fait que des fois tu sors un petit peu du match ou ton adversaire direct. Donc non, ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tous ces renseignements servent énormément aux joueurs, à Cavani. Cavani, tu lui dis ça, oui, peut-être que.
C'est sûr qu'avec les enjeux, on parlait des enjeux dans l'heure précédente, avec les enjeux économiques qu'il y a, mettre un but de plus ou un but de moins, c'est pour eux, c'est quand même assez, c'est important. Mmh. Donc, et puis, au temps de Jérôme, on a aussi des solutions qu'on donne. On peut pas le dire là parce que c'est un peu compliqué. Mais quand il y a quelqu'un comme Jérôme qui est donc horizontal, qui peut frapper avec un angle près de 90 degrés, il y a des moyens aussi de.
Il n'y en a pas beaucoup des.
Non, je sais bien, Mais voilà, on essaye de trouver des certains moyens. Mais c'est surtout ça. Et ça, c'est important. Les dégagements des gardiens de but, par exemple, on a fait une petite étude sur la gardienne de l'équipe de France féminine.
L'étude devait être.
Mais justement,
il y a trois classeurs, c'est bizarre.
On la connaît pas, mais on regarde les dégagements ratés et ainsi de suite. C'est à chaque fois qu'elle dégage avec un angle, c'est-à-dire son corps est orienté d'un côté et elle veut chercher quelqu'un sur l'aile d'opposé.
Donc à cette fois, c'est compliqué. Lui dire place-toi comme ça pour réussir ton dégagement.
Bah c'est-à-dire que c'est le but par exemple de Pavard quand il fait sa fameuse reprise de volée, le centre qui vient de le gauche. Ouais. Vous voyez l'arrière latéral qui prend un angle pour frapper. Il a le temps en plus, mais il frappe pas comme Jérôme. C'est-à-dire qu'il se décale naturellement pour être beaucoup plus face au ballon.
Exactement.
Beaucoup plus.
Mais sur les dégagements, Jérôme, ça c'est du concret.
Nous, on est que dans le concret.
Capable de dire, regardez, votre gardien là, sur 10 dégagements, il en a foiré 5, parce que les 5 qu'il a foiré, ils étaient tirés comme ça. C'est facile à corriger, ça.
Ouais, c'est facile à corriger, oui.
Parce encore faut-il après, que les entraîneurs vous écoutent, quoi.
Encore faut-il le voir. Et puis après, encore une fois, qui nous écoute, mais qui nous croit pas. C'est-à-dire qu'on le fait sur le terrain. Si ça marche sur le terrain, c'est le terrain qui a raison. Oui, c'est ça qui est important. Nous, on n'a pas le savoir. Voilà. On fait des propositions, et après, c'est le terrain qui décide.
Alors, quelle est aujourd'hui la proportion des clubs qui font appel à ce genre d'études dorénavant?
Ça vient de plus en plus. On arrive petit à petit à... Ça fait l'approche Action Tab qu'on développe. Elle a plus de 30 ans. Elle a été dans le volleyball. Elle est dans plein d'autres sports. Le football
Le foot est toujours un peu en retard sur ses recherches ou pas?
C'est surtout accéder.
Peut-être réfractaire.
C'est surtout accéder un petit peu, et puis les gens ont un peu peur qu'on prenne leur place aussi.
C'est une question d'ouverture d'esprit, voilà. En fait.
Non, je pense que c'est déjà arrivé il y a très longtemps. Parce que moi, je prends mon exemple encore une fois. Quand j'ai débuté, j'étais au centre de formation de Caen. J'étais avec un directeur du centre, c'était Pascal Théo. Que j'ai récupéré aussi en professionnel parce que Calderon s'était fait virer, donc il a commencé sa carrière pro avec nous, où il a fait monter quelques jeunes. Et franchement, on travaillait C'est pour ça que ça me rappelle ce que vous me dites, c'est les choses qu'on a fait avant l'antenne là. Ça me rappelle comment on travaillait. On était quadrillés sur le terrain. Je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il y en a eu des matchs des entraîneurs. Mais Pascal Théo, c'était adepte du 4-4-2, 4-4-2 à plat. On fonctionnait vraiment main dans la main à l'entraînement. On travaillait même avec des bâtons et tout ça pour être proches les uns des autres. Et à chaque fois, les joueurs sur les côtés. Donc moi, j'étais l'excentré à gauche, l'excentré à droite. On avait les mêmes caractéristiques. Ce que je veux dire, on était des hommes vraiment de côté, des joueurs de ligne. Il aurait pas mis un droitier à gauche, par exemple. Mmh. Il aurait mis un gaucher, toujours un gaucher. Tu vois. Donc lui aussi avait ce réflexe-là, mine de rien. Peut-être que
oui, mais un gaucher à gauche, c'est pas forcément bon.
Non.
Non, parce que on a des exemples comme Messi.
Ça dépend lesquels, bien sûr. Si tu... Mais la majorité des gauchers, je suis désolé, alors tu vas peut-être me contredire, mais la majorité des gauchers reviennent toujours sur leur pied gauche avec l'intérieur du pied gauche. Tu le vois. C'est si c'est. Après, il y a des contre-exemples, bien sûr. Mmh. Lionel Messi est gaucher, Lionel Messi. Mais bon, il y en a qu'un, des comme lui.
Ce qu'il faut, c'est analyser pas uniquement le pied gauche ou le pied droit, ce qu'on fait généralement. Mmh. Après, il y a d'autres facteurs. Il y a ce qu'on appelle l'œil moteur. Avec quel œil je regarde.
On va en reparler.
Voilà, on a quel côté je regarde, qui s'associe au pied. Il y a une épaule qui est plus en avant que l'autre. Le corps humain est asymétrique. C'est-à-dire que pour prendre une décision rapide, il faut qu'il y ait des différences. Si on rencontre des jumeaux, on ne sait pas qui l'un qui l'autre parce qu'il n'y a pas de différence. Donc tout est asymétrique. Et notre corps, notre fonctionnement humain, pour que notre cerveau fonctionne, il faut qu'il y ait des différences. Et donc nous, on essaye de mettre différents critères, j'allais dire 4-5 critères en plus du pied, pour justement comprendre que
alors on va y venir. Fonctionne mieux. Mais d'abord, Dominique, on a Pierre au 32-16. Alors Pierre n'est pas tout à fait convaincu. Il veut intervenir. Salut Pierre.
Salut Gilbert. Salut à tous.
Salut Pierre.
Alors bonjour, Pierre, on t'écoute.
Bah, moi, j'écoute l'émission. C'est vrai que je comprends tout ce qui se dit. J'ai l'impression que cette analyse-là, moi, je la fais inconsciemment, de voir comment les joueurs se déplacent, comment ils peuvent bouger sur un terrain. Mais concrètement, j'ai du mal à comprendre comment les footballeurs peuvent utiliser ces arguments, quoi. Je prends l'exemple simple. Aujourd'hui, même un truc basique, tirer un penalty, il y a une attitude, il y a une façon de tirer un penalty. Je suis pas sûr que si jamais je t'explique pendant 10 heures comment tire les penalties Daniel Riolo, je suis pas sûr de les arrêter parce que tu m'expliques comment il les tire ou il va se positionner, quoi. Je suis pas convaincu. Je vais en arrêter un, quoi. Puis après tu vas changer.
Jérôme, lui, naturellement, il va utiliser l'intérieur du pied. Donc sur 10 penalties que va tirer Jérôme, je pense qu'il y en a 8. Qui va tirer croisé.
Je sais pas, il faudrait demander à tous les gardiens qui ont encaissé mes pénalties, j'en ai jamais raté.
Naturellement, tu les tirais plutôt croisés.
Ah non, franchement.
Tu
alors
faisais
ça,
pied ouvert.
Ça, pied ouvert, croisé, j'avais pas de zone. Et au contraire, j'étais plus dans le confort, pied ouvert.
Ça dépend après au niveau de l'intensité. Oui, c'est-à-dire qu'on peut tout faire. Et là, je reviens à l'auditeur, il a raison, on peut tout faire. C'est-à-dire, après, c'est une question d'intensité. C'est-à-dire que quand on peut, si on va doucement et si on place le ballon à droite, à gauche, on peut le faire. On le fait pas de la même manière. Jérôme, quand il ouvrait le pied, certainement sa jambe d'appui devait être tendue alors que de l'autre côté, elle était pliée. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails comme ça. Mais c'est une autre organisation motrice. Mais dès que ça va vite, pour répondre à la question, c'est que nous, ce que l'on fait, c'est pas scientifique, ça vient du terrain, c'est qu'on regarde les meilleurs et comment ils fonctionnent. Et on détermine plein de choses. Après, les séances nous disent, oui, ça se passe comme ça. Mais on est d'abord des footeux, à la limite, et on regarde ce qui se passe sur le terrain. Et c'est le terrain qui nous dit comment ça se passe. Et effectivement, il y a des préférences. Maintenant, on peut tout faire. Et encore une fois, on peut tout faire. Tout dépend du contexte et de l'intensité. Mais dès que ça va vite, si vous laissez 3 dixièmes de seconde à Mbappé, peut-être qu'il y a un autre,
oui, pour lui laisser 8 dixièmes. Robben, sa fin de rentrer, là, et de frapper. Voilà. Tout le monde sait qui fait ça, voilà. Ça passe tout le temps.
Non, mais en plus de ça, c'est vrai que, et c'est important de le dire, alors il y a la vitesse, il y a le jeu, la fatigue et surtout le contexte. Mmh. Je prends l'exemple d'un pénalty. Toi, tu me disais, tu tirais trop croisé ou plat du pied.
Je prends tes caractéristiques définies par lui.
Oui. Je travaillais les deux. Et ça se travaille, les pénaltys, mine de rien. C'est pas comme ça. Ça se travaille. C'est un geste technique. Donc même si à l'entraînement c'est plus facile qu'en match, ça c'est sûr. Quand t'as 60 000 personnes qui te sifflent, c'est difficile. Mais après le naturel reprend le galop, quoi. Moi, quand j'étais pas sûr du gardien, du positionnement du gardien, c'est un jeu avec le gardien. Je savais pas trop où il allait aller. Je frappais fort, plat du pied,
ouvert.
Ouvert.
Ouais.
Ouais. Tout le temps.
Ouais, tout le temps. Ouais.
Voilà, parce que j'avais plus de précision, plus de force, et j'étais plus en confiance sur ce geste-là.
Et Jérôme, comme, le profil de Jérôme est comme celui de Griezmann, par exemple, c'est pour ça qu'il met beaucoup de pénalty, comme on a vu à la Coupe du Monde ou ainsi de suite à gauche. C'est un profil qu'on appelle associé, c'est-à-dire que les épaules et les hanches sont ensemble, et donc quand il est face, il frappe en face de lui. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il doit croiser, il est obligé d'avoir les épaules qui changent un petit peu. Mouvement. Donc c'est plus compliqué.
Tu perds de la précision.
Voilà. C'est sûr. Alors, d'autres personnes ont un point mobile en haut, on va pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, donc effectivement, si vous regardez Griezmann ou Jérôme, qui sont dans le même profil, j'allais dire, eh ben ils sont plus à l'aise comme ça, effectivement, avec tout le corps qui avance et qui s'engage d'une manière globale dans le ballon.
Pierre, merci, j'ai un petit cadeau pour toi, on va t'envoyer le DVD de la semaine, Aquaman, avec Fabrizio Ravanelli, ce soir, qui est là. Salut Pierre.
Est-ce qu'il y a des sports qui se prêtent plus à vos analyses?
Salut.
Non, parce que après c'est toujours pareil. Il y a des sports où la culture, je sais pas, je vais prendre l'équitation, où c'est faut tout le monde, on va tous prendre un cours d'équitation, on va tous nous dire il faut faire comme ça. Voilà, on va pas tenir compte de nos profils. Donc il y a des sports où le profil s'exprime mieux. Par exemple, si Daniel va faire de l'équitation, le fonctionnement de Daniel est pas tout à fait celui du livre, j'allais dire. Donc voilà, donc ça, il peut être très bon, mais sauf que s'il écoute le livre, ça va être plus compliqué. On a travaillé
avec. En gros, on ne monte pas sur un cheval.
Voilà. Non, mais on a travaillé par exemple avec Christophe Soumillon pour parler de choses comme ça sur d'équitation, enfin sur des. Il est pas tout à fait dans le même lourd, si dans le même fonctionnement.
Non, oui.
Mais c'est pour ça que on en tous parlera, les voilà. Si après le problème c'est que on dit voilà pour faire du tennis voilà comment il faut faire. Le coup droit au tennis, il faut mettre les épaules perpendiculaires au filet, bien accompagner, toutes ces choses-là.
Dans l'éducation du tennis, on apprend.
On apprend un geste. Sauf qu'on s'occupe pas du cerveau.
Peut-être pas.
Ben non, nous on part du cerveau et après on dit le cerveau fonctionne comme ça, et le corps fonctionne comme ça.
Ah, mais c'est pas donc, partout. Voilà. Puisque vous parlez de ce sport-là, c'est pas partout comme ça parce que justement dans l'éducation du tennis en France, et c'est ça qui a été aussi un des problèmes dans l'enseignement du tennis, c'est que oui, on voulait formater dans la façon de faire
les gestes. C'est la grande leçon. Ce soir, c'est halte au formatage.
Alors,
en fait,
bien sûr. Alors que, par exemple, le coup droit de Nadal, on lui aurait interdit en France.
Bien sûr.
Dans l'enseignement du tennis en France, on lui aurait interdit.
Bien sûr.
Il y a des pays où, effectivement, si on bosse avec des coachs...
Le dégagement d'Apula Edel, on a voulu l'interdire.
Le développement individuel, le joueur va pouvoir se développer d'une autre façon.
Bien sûr.
On ne cherchera pas le geste parfait parce qu'il doit être comme ça.
C'est le problème. Je pense que, enfin, je dis souvent ça, mais en France, on est trop intelligent. C'est-à-dire qu'on va expliquer exactement que le mouvement doit être comme ça, que le club doit faire ça, la raquette doit faire ça, le pied doit faire ça. Enfin, vraiment de la biomécanique, j'allais dire. Et moi, je cherche toujours le côté bio dans le côté biomécanique. On est beaucoup dans de la mécanique. Et ensuite, on essaye de faire rentrer l'athlète dans cette mécanique.
Alors, Dominique, dans quelques instants, tu vas nous expliquer comment on compose une bonne défense. Et c'est pas forcément dû au meilleur pied. Ça, c'est très intéressant. Et puis, les gardiens de but, ils ont leurs caractéristiques et souvent on leur fait faire des trucs naturellement qui ne leur conviennent pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils font des boulettes, ils se blessent, etc. Sujet passionnant dans quelques instants dans l'after. Bien sûr, on revient tout de suite avec vous au 32-16.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jean Montaigne, Daniel Riolo, ils sont là avec Dominique Fournet, expert donc depuis de nombreuses années de préférence motrice et cérébrale hein, d'ailleurs. Mais là on parle du moteur.
Quel but ! Gagnez maintenant vos places pour la finale de la Coupe de France de football, Rennes PSG. Envoyez foot par SMS au 7-32-16.
Voilà, c'est tombé, vous connaissez le principe, quand vous entendez Jeannot qui hurle, hop, vous envoyez foot par SMS au 7-32-16, vous gagnez vos places pour samedi soir la finale de la Coupe. Tentez votre chance, vous pouvez y aller jusqu'à minuit. Hein. Juste Jérôme, excuse-moi, mais tout à l'heure t'as quand même dit un truc... Forcément qu'il fallait contresorte.
Oui,
il a dit ça, Jérôme, écoute. Ouais,
après, le naturel reprend le galop. Qu'on revient.
Le naturel reprend le galop. Oh,
oui, ça voilà.
Comment j'ai raté ça?
Au niveau cérébral, Dominique.
Mais comment j'ai pu rater ça?
C'est pas grave.
Oh, merci. Bravo. Oh, merci de ne pas l'avoir laissé.
Quelques messages, parce que ça réagit beaucoup là sur notre thématique.
Le naturel reprend le galop.
J'ai, alors, beaucoup de monde a fait le test des bras croisés.
Le fait tout le temps, celle-là.
Et me dit, effectivement... c'est incroyable, je n'arrive pas à croiser les bras dans l'autre sens, me dit-on. Xavier me dit, quand vous mettez votre pantalon le matin, c'est pareil, on peut le faire dans un sens, mais jamais dans l'autre, c'est impossible. Bah, essayez demain matin. Bah, tu mets l'autre jambe en premier?
C'est possible, ouais, ouais.
Je sais pas,
ouais.
Non, le pantalon,
faudrait
je sais,
voir.
Je crois que j'arrive à le faire.
Bah, écoute,
deux jambes.
Faut essayer.
On va essayer, on va essayer.
Faut essayer demain. G2 qui nous dit, est-ce que ces études...
C'est quoi l'histoire du pantalon, là?
Quand tu mets ton pantalon, tu mets toujours la même jambe en premier?
Je sais pas, on me le met, moi, mais...
Quel boulard, celui-là.
T'as quelqu'un qui t'habille, non?
Ah, bah oui.
Alors,
Jordan.
C'est logique.
Parlons, alors, il y a encore deux choses importantes, là. L'histoire de l'œil directeur.
Et il m'attend, là.
Et après, on va parler de composition de défense centrale. Tout le monde a un œil, on va dire, je sais pas si on dit directeur ou préférentiel.
Alors, on dit pas directeur, c'est-à-dire l'œil directeur, on a un œil directeur, c'est celui qui prend une cible qui ne bouge pas. C'est-à-dire que quand je tire à la carabine, la cible ne bouge pas, voilà, on va se mettre sur l'un ou sur l'autre pour aligner.
Là, moi, il a 100% de réussite à gauche.
Voilà. Et on a
toujours été à gauche pour tout, toi, c'est étonnant.
On a un œil moteur, c'est-à-dire celui qui prend le mouvement. Alors, ça peut être le même. Chez moi, c'est le même. Mais ça peut être aussi un autre. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est toujours ce côté binaire. On perçoit mieux le mouvement quand on est sur la gauche ou quand on est sur la droite. Voilà, donc on peut pas le faire là parce que c'est assez compliqué, mais peut-être de savoir quel est son œil.
Ouais, la radio, c'est difficile à expliquer.
Voilà, qui est expliqué. Mais on a le mouvement et alors si on prend par exemple N'Golo Kanté, quand lui c'est son œil droit et à chaque fois qu'il fait une intervention, il a toujours le joueur sur lequel qu'il attaque sur son côté droit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est sur son côté droit, il est toujours mieux. Il fait toutes les fautes qu'il peut faire, il en fait un peu à droite aussi, mais à chaque fois, c'est quand le joueur est sur son côté gauche. Ça, c'est, on l'a fait, on a la Coupe du Monde, on l'a regardé.
Quoi,
oui,
c'est-à-dire que quand donc il va... si moi j'attaque face à N'Golo Kanté, et si je sais ça, je sais qu'il vaut mieux que je passe d'un côté.
Eh oui.
Oui, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que quand N'Golo Kanté est donc sur votre gauche, c'est plus compliqué pour vous que quand il est sur votre droite. Puisque quand il est sur votre droite, il est sur son œil gauche et il score moins rapidement.
Après, si je suis sur le terrain, je sais pas si j'ai le temps de me dire, moi, tu peux passer de ce côté pour l'emmerder.
Non, c'est pas ça. Non, mais après, par exemple...
Ouais, tu te retrouves un contre un face à un défenseur, tu connais sa caractéristique.
Voilà.
Tu te dis, voilà, quand... un contre un, pam, lui, il faut que je le prenne à gauche ou lui, il faut que je le prenne à droite. Voilà. Ah, franchement, en une seconde, tu vas. Hein.
Et quand on sait, par exemple, que Matuidi, c'est son œil gauche, bon, bah après, on voit sur les côtés les choses. Enfin, voilà, c'est...
Donc, attends, Matuidi, c'est son œil gauche, son...
Ouais. Voilà, moteur,
et,
ouais.
Et le moteur, et Kanté, l'œil droit. Donc, quand les deux sont sur le terrain, comment on les positionne pour que ce soit complémentaire?
Ça, c'est au coach de le faire, mais c'est-à-dire que c'est sûr que quand Kanté est à droite et, Matuidi à gauche, le milieu entre les deux, j'allais dire, c'est sur les côtés que c'est infranchissable. Le milieu. Le milieu, c'est là,
ah oui,
c'est une zone un petit peu, voilà. Donc peut-être, peut-être qu'ils vont se rapprocher, se mettre un peu plus près. Voilà.
Il est capable de remettre un 6, tu vois.
Voilà. Voilà. Par contre, s'il joue de l'autre côté, ce qui est rarement le cas, là, ça serait sur le centre, ça serait fort et sur les côtés. Donc après, voilà. Mais ça, c'est le rôle du coach. On veut pas être ce rôle-là. On fait des propositions.
Oui, mais alors, je pousse le raisonnement à l'extrême. Est-ce que demain on pourrait être coach et construire son équipe uniquement en fonction de ces critères-là?
Nous on fait des offres au club professionnel avec lequel on travaille. Et dans nos offres, justement, c'est dans le recrutement. Des fois, ils veulent un joueur qui soit plus vertical ou plus horizontal, et ainsi de suite. On peut donner ce type d'informations. Si vous voulez avoir plus de profondeur et vous prenez quelqu'un comme Giroud qui joue plutôt sur la largeur, voilà, vous allez le forcer à faire quelque chose.
Le foot aujourd'hui, on veut de la verticalité. Donc les mecs qui sont dans l'horizontalité, a priori...
Il y en a beaucoup qui sont de l'horizontalité, mais après c'est surtout dans le déplacement des joueurs. C'est-à-dire que si on veut un joueur qui vient, je sais pas, on va dire comme... Griezmann par exemple, qui va toujours assez droit, ainsi de suite. S'il y a quelqu'un qui fait un appel latéral devant lui, ça lui bouge son espace. Donc alors il peut faire l'espace arrière. Donc voilà, c'est juste après.
Pourtant, la Coupe du Monde, il joue avec Giroud.
Oui, mais c'est pour ça. Mais après, ils peuvent très bien se coordonner. C'est-à-dire que Giroud peut partir latéralement sur la gauche pour lui laisser la place à droite, comme on a vu souvent. Enfin après, mais ça c'est. C'est-à-dire que c'est plus une aide que l'on fait aux entraîneurs et c'est à l'entraîneur de décider. On veut pas prendre l'entraîneur. On veut pas dire, lui il doit faire ça, lui il doit faire ça. C'est pas, on dit pas ce que les gens doivent faire. On leur dit voilà, ce joueur-là, voilà ses caractéristiques, voilà ses préférences, voilà où il sera le meilleur, comme disait Jérôme, voilà où seront ses forces.
Une question qui revient souvent, est-ce que les blessures ne viennent pas régulièrement justement de postures non naturelles?
Alors, il y a deux choses. une des choses vraiment dans les blessures, c'est justement imiter quelqu'un. Je vais pas prendre des, on prenait Juninho, les coups francs qu'il faisait, il était dans un profil particulier. Certains joueurs de Lyon ont essayé de faire comme lui.
On
faisait
à Lyon.
Oui, comme Lyon, mais parle de Lyon parce qu'il y a eu beaucoup de blessures aux ischios et peut-être qu'à taper 10, 15, 20 coups francs à chaque fois.
Alors enfin, on a compris pourquoi d'où ça venait.
À un moment donné, peut-être que ça peut être une explication, mais on peut aussi se blesser à l'opposé, c'est-à-dire qu'on sans savoir récupérer, c'est-à-dire qu'on tire tôt sur sa force et on sait pas aller. Alors, c'est pas une faiblesse, la faiblesse c'est aussi une zone de récupération. C'est-à-dire que on sait pas aller aussi de l'autre côté. Donc on peut se blesser par excès ou alors justement parce qu'on travaille à l'opposé. Donc les blessures, ça serait pas juste de dire quand on travaille à l'opposé, c'est pas bien. Mais effectivement quand on travaille à l'opposé, on a plus de chances de se blesser que quand on travaille dans sa force.
Alors, un mot sur les gardiens de but. Parce que c'est un poste évidemment très spécifique avec un entraînement particulier.
Bien sûr. Oui.
Et les gardiens, alors, on disait tout à l'heure en début d'intervention qu'il y avait les gens qui étaient plutôt sur l'avant et les gens plutôt sur l'arrière. Donc, un gardien qui est sur l'arrière, il va avoir tendance à être bon en plongeant vers l'arrière.
Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. C'est les gardiens de l'équipe de France, c'est là où ils s'expriment le
mieux. Loris, Mandanda, par exemple, c'est vers l'arrière qui sont les meilleurs.
Areola, c'est plus sur l'avant. Pour prendre les gardiens de l'équipe de France.
Dans la façon dont on leur a appris.
Non, ça, c'est naturel. Alors,
c'est naturel. C'est-à-dire que Areola s'équilibre sur l'avant. C'est-à-dire que le mouvement, quand il se déplace, il démarre avec les épaules et ses jambes servent à rattraper la chute de ses épaules. C'est-à-dire que il se coordonne mieux. Il y a une coordination qui se fait quand il tombe vers l'avant. C'est naturel. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand il va plonger sur l'arrière, c'est un peu plus compliqué. On le voit chez les joueurs qui taclent. Il y a des joueurs qui taclent.
Mais ça, on peut pas le forcer à plonger vers l'arrière pour le mettre en difficulté.
Non. Mais c'est-à-dire que la problématique qu'on rencontre actuellement dans les gardiens de but, pour des raisons toujours techniques, de gagner du temps, ainsi de suite, on fait plonger les gardiens vers l'avant. À l'entraînement, il faut qu'ils plongent vers l'avant parce qu'ils coupent la trajectoire. Ça fait gagner du temps. Et c'est juste. On peut pas dire que c'est pas juste. Sauf que quand on voit Dorea qui, sur la frappe de Messi, qui lui, se sent mieux à l'arrière, plonge vers l'avant parce qu'il l'a appris et il peut le faire. À ce moment-là, c'est bizarre qu'un gardien de ce niveau-là fasse une boulette, comment dire.
Et pourquoi il est plongé vers l'avant? Je comprends pas.
Je sais pas, parce que peut-être qu'il apprend à plonger vers l'avant et comme la balle arrive doucement, il est pas sur le réflexe. C'est-à-dire quand ça va. Le problème, c'est pas quand ça va vite.
Michel Andro était sur l'arrière.
Michel Andro était toujours sur l'arrière.
Oui, mais dû à son fessier.
C'est pareil, c'est le fessier. C'est le fessier qui faisait qu'il tombait.
Voilà. Voilà. C'est l'orient derrière la ligne. C'est
franchement, c'est moche.
Mais
Jérôme, on essayait de le faire plonger vers l'avant, il n'y arrivait pas.
Et ce que dit Jérôme, c'est pour ça que s'il est trop sur sa ligne de but, comme il plonge vers l'arrière, il a intérêt à être un peu plus vers l'avant, de faire 2-3 mètres, parce que quand il va chercher le ballon sur l'arrière, s'il est sur sa ligne, il va aller chercher au fond des buts. Donc c'est juste des caractéristiques de coordination, qui font que le gardien la proprioception, la perception, du mouvement, on réfléchit pas quand on
combat. Moi, il y a un truc quand même qui me fait halluciner, c'est quand vous nous racontez tout ça, mais comment est-ce qu'un entraîneur de gardien, par exemple, peut travailler sans connaître les caractéristiques de son gardien?
Mais on a travaillé avec on travaille maintenant avec des entraîneurs très célèbres de gardiens de but, qui justement ont compris ça, ont fait la démarche, se sont ouverts, et souvent comme c'est des postes spécifiques, l'entraînement des gardiens ou les coups de pied arrêtés sont des choses qui sont très demandées, entre guillemets. Parce que c'est vrai que dans le match, ça va vite, ça change, il y a des choses. Là,
donc
sur les gardiens.
Ça va devenir un élément nouveau dans la préparation des.
Oui, ça va venir, bien évidemment.
Des disciplines sportives, quoi.
C'est-à-dire que plus on va individualiser le travail, parce qu'on parle d'individualiser le travail, c'est bien beau, mais sur quels critères? Donc plus on va individualiser. On individualise le travail, c'est tout. Après, c'est des individus qu'on va faire jouer ensemble. Et après, c'est la tactique, mais voilà, jouer contre nature.
C'est des informations supplémentaires.
Oui, finalement, la seule inconnue de votre travail, c'est comment le coach au foot va réussir à tirer profit de tout ça pour faire une mise en place gagnante sur le terrain, en fait.
Tout ça dans un ordinateur.
Mais c'est comme ça qu'on l'aide. Mais c'est vrai que, par exemple, Mourinho trouvait les mêmes choses que nous, on pourrait, avec des études statistiques, avec 10 personnes qui étaient en train de voir les stats des joueurs, en disant des choses comme ça. Voilà, nous,
vous auriez pu mettre sa cellule de stats au chômage en 3 minutes.
Non, on n'a pas cette prétention-là. Mais c'est vrai que, ce qu'il avait vu sur Messi, par exemple, on sait que Messi part à gauche parce que ses pieds gauche, œil gauche, donc il rentre plus facilement à gauche. Donc, il faut essayer d'amener Messi plutôt vers la ligne de touche, plutôt que rentrer. Ouais. Donc, il a mis un joueur, puis il en a mis un deuxième.
Mieux le sortir,
puis il a mis...
quoi.
Voilà. Et puis il en a mis plusieurs en cascade. Mais bon, voilà, c'est des choses. Sauf que on apprend dans les écoles de football qu'il faut être le défenseur, doit être, il y a le ballon, il y a le défenseur, il y a le but. Il faut qu'il soit en face. Sauf que alors, si quelqu'un comme ça, c'est trop facile pour lui.
J'ai pas mal de réactions là encore sur Direct Studio. J'ai Smaïn qui me dit Monsieur Fournier, vous auriez pu nous rencarder sur Mitroglou avant qu'il arrive. bon, ça. Évidemment...
Nous on parle pas du talent. Comment le talent s'exprime, c'est autre chose.
Est-ce que il est possible de prévenir les blessures avec votre mécanique, et est-ce que ça peut servir aussi pour la rééducation?
Tout à fait. Dans nos propositions qu'on a, justement la réathlétisation des joueurs, bien évidemment, parce que on va prendre des choses très simples. Il y a des gens qui ont besoin de pliométrie, c'est-à-dire des rebonds, beaucoup plus en rebond, et puis d'autres qui ont besoin beaucoup plus en concentrique. Voilà, si Jérôme lui va travailler, son déplacement est plus en concentrique. Daniel sera plus sur du rebond. Donc c'est une priorité, j'allais dire, au niveau du travail. Et on travaille avec des préparateurs physiques et athlétiques. On leur donne ces informations-là, mais c'est eux qui font le boulot. Encore une fois, nous on fait pas le boulot, on leur donne les informations.
C'est des compléments, ouais.
C'est des compléments. Voilà, on prend la place de personne. On apporte juste d'autres conseils pour simplement, encore une fois, faire gagner du temps et puis être encore plus précis dans l'individualisation du.
Alors il y a plein de coachs qui nous écoutent. Hein. Non mais c'est vrai, tout le monde écoute l'after, donc les coachs vous écoutent. Donc si vous souhaitez bosser avec Dominique Fournet, alors votre boîte s'appelle Axel.
Axel, ouais. Voilà. Axel Conseil.
Donc voilà, et on observera nous. Donc regardez bien, moi je retiens ça. Hein. Giroud et Cavani, la façon dont ils, quand ils marquent, comment ils sont positionnés par rapport au but, parce que c'est quasiment imparable. On va regarder des vidéos, ça fonctionne quasiment à tous les coups. Ouais. Et puis donc les gardiens qui plongent vers l'arrière et vers l'avant, on voit tout de suite les caractéristiques des uns et des autres. Clair, ouais. Et donc Kanté, faut passer à gauche.
Voilà.
Ouais. Merci gros, Dominique, merci c'était passionnant, à très bientôt dans l'after. Nous on continue. Je vais vous faire réagir à ce qui se passe au 32-16 parce que ça réagit beaucoup sur la nouvelle formule de Ligue des Champions une nouvelle fois. Donc on en reparle dans quelques instants dans l'after. À tout de suite.
RMC l'after foot, Gilbert Bribois.
23h45 dans l'after. Juste pour finir sur notre dossier d'avant, on a retrouvé Zinedine Zidane qui met son pantalon. Écoutez.
Toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite.
Voilà. Tu vois, quand je vous dis que ça marchait à tous les coups. Bon. Alors oui, je voulais qu'on revienne sur, il nous reste 10 minutes ensemble, je voulais qu'on revienne sur ce qu'on racontait tout à l'heure avec Luc Daillon, parce que ça fait énormément réagir ce soir. Thomas, par exemple, qui lui dit, pour moi, la réforme de la Champions League, c'est la mort du supporterisme, et par conséquent, l'explosion des spectateurs, entre guillemets, qui regarderont le foot, mais ne le suivront pas forcément attentivement. C'est très dommage, on va vers une nouvelle sorte de suiveurs et de supporters.
Et oui, mais j'entends bien, mais
est-ce qu'on peut le déplorer ou est-ce que c'est parce que moi je suis assez d'accord avec ça.
Je ne sais pas.
Quand on dit alors les supporters de Guingamp, va-t-il regarder Tottenham, oui. Va-t-il se choisir un autre club qu'il va suivre?
La question que je lui pose à la personne qui t'a écrit ce message, c'est Thomas, c'est quel âge tu as et est-ce que tu penses que ce que tu es en train de décrire n'existe pas déjà? Moi, à regarder régulièrement parce que j'y suis sur les réseaux sociaux, mais je ne vois que ça. C'est-à-dire des gens qui soutiennent plus des joueurs que des équipes. Pour m'être renseigné sur les nouveaux modes de consommation du football, dans le marketing, on travaille justement effectivement plus sur les joueurs que les clubs. On s'intéresse plus à telle star plus qu'à tel joueur. On l'a vu quand on a fait tous ces débats sur les mecs qui mettent des maillots de club alors qu'ils supportent un autre club. Le nombre d'auditeurs qui nous téléphonent chaque soir. Ouais, je m'appelle machin, je supporte le Real. Ouais, machin, je supporte le Barça. Ah bon? Et à chaque fois, tu sais, quand on a rigolé pendant des années, genre, mais t'es un footix, t'habites Marseille, t'habites Lyon, t'habites Paris, tu supportes le Real. Ouais, mais... En fait, on est déjà dans ça.
Non, alors qu'après, la majorité, alors même, Daniel, c'est des contre-exemples, ça.
Non, pas du tout, pas du tout.
Si.
Bah, c'est mon avis. Je donne mon avis. Après, t'as le droit de pas être d'accord. Mais on a également nous beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont des supporters dits à l'ancienne, attachés à leur club, à leur couleur, qui suivent. Évidemment, encore heureux qu'il y en a encore. Nous, on vient de là. Mais nier qu'il y a une énorme évolution. Dans la façon de regarder le foot, de ne pas regarder. Le mec, il disait quoi? De ne pas regarder le match en entier ou
de ne plus regarder en supporter, mais en spectateur. Oui. C'est-à-dire en étant moins impliqué, parce que tu vas regarder les grands matchs.
Ça aussi, c'est déjà le cas. Combien de mecs ne regardent pas les matchs de foot en entier et réagissent? Moi, je le vois autour de moi, partout. Il y a de moins en moins de gens qui regardent réellement les matchs, qui regardent un peu leur équipe, mais ce qui se passe à côté, pas vraiment, qui sont auto-centrés. Mais très franchement, moi, je me demande si les gens ont réellement conscience de la façon dont sont consommés aujourd'hui.
En fait, il va falloir redéfinir la définition de Footix, en fait.
À travers le streaming, à travers les réseaux sociaux. C'est une consommation qui n'est plus du tout celle de notre époque où je regarde le match de mon équipe, je regarde même, parce que je suis un vrai passionné, d'autres matchs. Ça, c'est l'exception. Je vous assure que c'est l'exception. Et si ça a été étudié, et si on en est à en parler comme ça, je peux vous assurer que derrière, ça a été bossé aussi bien par des mecs de marketing, des mecs de chaînes de télé. Le foot est déjà là-dedans, largement.
Oui, c'est-à-dire
là-dedans.
Que des grandes marques type Nike ou Adidas, aujourd'hui, ils vont plus investir sur un joueur que sur un club.
Bien sûr. Ah,
bon, même s'il y a quelques contre-exemples.
Après que nous, on soit écoutés par des supporters qui voient le foot comme on le voyait, tu vois, mais évidemment, bien sûr.
Non, mais nous, on est écoutés aussi par d'autres. Parce que la tendance, c'est quoi? C'est qu'en 2024 ou après, le supporter de, je sais pas, prenons des clubs au hasard, Nîmes, Dijon, le mec est fou furieux.
Il a toujours son équipe de Ligue 1 en championnat le week-end.
Mais qu'est-ce qui va se passer?
Il va choisir un autre club. Le mec qui nous téléphone, il dit je suis supporter du Real.
C'est Hambourg ou c'est Borussia.
Je kiffe Benzema, j'adore le Real. Si Benzema il s'en va, ils supporteront plus le Real. Enfin, c'est déjà ça.
Est-ce que c'est un problème?
Mais absolument pas. Je suis en train de te dire qu'on est en plein dedans. Moi qui ai développé le concept dans l'after du Footix, machin, mais aujourd'hui on est dedans. Maintenant j'en rigole parce qu'on est passé à autre chose. Aujourd'hui, franchement, les mecs regardera son match du week-end. Est-ce qu'aujourd'hui, le supporter de Saint-Etienne, de Guingamp, de Nice, de Bordeaux, il regarde pas la Ligue des Champions la semaine?
Non, mais par contre, ça va l'empêcher de vivre des affiches contre Paris.
Mais les aura le week-end.
Oui, mais pas de la même.
Mais bien sûr, la priorité B ou l'équipe C.
Mais oui, ce sera pas la priorité de ces clubs.
Ça, c'est pas forcément au début, peut-être. Une fois que l'équipe n'est plus dans la compétition. Mais de toute façon, est-ce que c'est pas déjà un peu le cas dans le match qui précède, suit le gros match de Ligue des Champions?
Non, mais par rapport
très souvent, ça fait tourner déjà.
Bah, ça fait tourner quand Paris a 20 points d'avance. Je suis d'accord.
Je suis d'accord,
mais c'est en fait, vraiment
fond,
que là.
Au fond, réfléchissons à ce que ça changera vraiment. Je vous assure qu'en fait, on est dans une réalité qu'on ne veut pas regarder en face. C'est ça le vrai truc. On est déjà face à cette réalité, sauf qu'on ne veut pas l'admettre.
Non, en fait, c'est
parce qu'on est accroché à nos vieux.
Mais certainement aussi. Oui, c'est vrai. T'as raison là-dessus. On est peut-être accroché à moi quand je te parlais tout à l'heure là.
Le foot, c'est la Madeleine de Proust. Ouais,
tu vas empêcher les joueurs ou les supporters de rêver d'une épopée, de quelque chose qui peut se créer sur une année. C'est le charme du football. T'as des équipes qui se partent de rien et d'un seul coup qui arrivent là-haut. Alors, tu vas empêcher tout ça, en fait.
Je suis pas sûr.
Tiens, on va prendre l'avis d'Alexandre qui est là, au 32-16. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut,
notamment à Jérôme et à Daniel.
Salut, Alexandre.
Alors, toi, t'es supporter. Oui, vas-y.
Je suis ancien supporter du PSG jusqu'à l'arrivée des Qataris.
Voilà.
Parce que c'est le foot business et que c'est plus le même club, c'est plus la même chose. On change le logo, on change les maillots, mais bon, c'est un autre débat. Moi, ce que je voulais vous parler.
Le PSG a changé de logo, Alexandre?
Tout à fait. Tu regarderas et tu verras.
Tu veux dire plus ou moins que l'avait fait Canal quand ils sont arrivés?
Ah, c'est différent. Canal, c'était pas pour les mêmes raisons.
D'accord. Ils ont changé le logo bien plus que l'ont fait les Qataris. Canal a changé 10 fois plus de choses.
C'était trois lettres, je suis d'accord avec toi.
Mais c'est même pas qu'ils l'ont changé, c'est qu'ils l'ont éliminé, ils l'ont changé.
Ah, mais Canal,
Canal a changé 10 fois plus de choses que les Qataris.
Ouais, mais ils étaient moins maléfiques pour le club que les Qataris.
Et Colonie Capital, c'était pas du business, tu as raison. C'est vrai. Et Canal, c'était vraiment pas du business. Ils sont venus au PSG uniquement parce que Tapie a demandé, parce qu'ils se sont arrangés entre eux. Mais t'as raison, c'est pas du business.
C'était pas tout à fait le sujet, en fait.
Moi, je peux pas entendre ces conneries-là. Je t'assure, que le foot n'était pas business à l'époque de Saint-Etienne, de Tapie, du Bordeaux, de Claude Bèze ou de Canal.
Non, mais c'est
là,
pas...
franchement, moi, là, ça me renverse de bêtises.
Ah, bah, écoute, je suis désolé. Alexandre, il a le droit de faire ce qu'il veut, s'il veut plus suivre.
Ah, écoute, je vais raconter n'importe quoi.
À partir de Canal, à partir de... N'importe quoi. À partir d'Alioune Touré ou à partir du Qatar, il fait...
Ouais, mais qu'ils disent pas que c'est à cause du business.
Quoi, Alioune Touré?
Je sais pas, c'est le mec qui est venu.
Ça va, je suis très souvent d'accord avec toi, Daniel. Notamment, une fois après la fessée à Lille, la 5-1, t'avais dit dans les structures du club que ça allait pas, que c'était du grand n'importe quoi. Je vais te donner des exemples, mais il y a le temps, là, qui est à côté, sur les Champs-Élysées, là, qui est à côté de la boutique. À l'époque où c'était Louis Acariès qui le tenait, tu pouvais rencontrer Nasser, puis avec des agents qui venaient avec leur PSG, qui lui proposaient des joueurs, et lui, il gobait ça comme, c'est le système, le PSG, c'est pas, il y a des joueurs qui ont tenu une saison. Un joueur comme Jérôme Roten, il l'aurait dégagé au PSG. Alors qu'il a entièrement sa place au club. Voilà. Néné, il nous a tenu une seule saison. Là, c'est une saison tout seul. Ils l'ont dégagé comme un malpropre. Donc c'est un club qui n'a aucun remerciement. Ils sont juste là pour amener des stars et c'est tout.
Eh, tu sais ce qu'a fait Canal à sa fête Susic? Tu sais ce qu'ils ont fait à Susic?
Oui, je sais.
Ils l'ont traité comme une merde. Mais de quoi tu parles? Mais quand tu connais pas l'histoire, mais ne viens pas dire des bêtises.
Je
t'en supplie. Bon. Ils ont traité Borrelli, mais Borrelli l'ont mis dehors comme une merde.
Revenons
mais
à notre
avec les Qataris, arrêtez tous de dire des bêtises.
Revenons à notre projet de Ligue des Champions, parce qu'au départ on devait parler de ça. Hein. Je sais pas pourquoi tout à coup c'est parti sur le PSG.
Mais tu sais ce qu'ont fait les dirigeants dans le foot français tous autant qu'ils sont.
On peut passer à la raison principale.
Vas-y. Ouais.
Alex, donc toi, ce projet là, qu'est-ce que t'en penses?
C'est n'importe quoi. Il y a la même au basket avec l'Euroleague. Et
ouais.
Puis bon, comme je suis d'origine serbe, basket, je vais vous donner l'exemple. Il y a des clubs qui ont des licences, qui sont avec ces licences-là, ils ont la garantie de jouer l'Euroleague, qu'ils soient 18e du championnat, qu'ils soient en 2e division, en 3e division. Mmh. Des clubs comme le Real, comme le Barça. Et là, vous avez le problème en Grèce, entre l'Olympiakos et Panathinaikos, vu que apparemment, bon, les arbitres sont souvent pour le Panathinaikos. Le club de l'Olympiakos a menacé de quitter le championnat s'il n'y avait pas des arbitres étrangers durant le derby. Et il n'y en aura pas. Et du coup, ils vont sortir du championnat de Grèce, apparemment, pour jouer la Ligue Adriatique. Donc, c'est ce qui va se passer au foot. Le PSG, demain, ils sont plus contents du championnat de France. Ils jouent la Ligue des Champions tous les ans. Mais ils en ont rien à foutre du champ de la Ligue 1.
Oui, hein. C'est-à-dire que l'aberration du système, je suis d'accord. Attends, je le reformule différemment. Le PSG, demain, ils peuvent très bien être relégués en Ligue 1. Je sais pas. C'est un truc un peu hallucinant. Mais continuer dans la nouvelle Ligue des Champions, ouais, puisqu'ils sont dans les six premiers systématiquement, tac, mais jouer en Ligue 2 en France, par exemple.
Ouais, ouais.
Ça, c'est quand même une aberration du système. Faut le reconnaître.
Oui, alors là, si tu veux, avant que ce cas de figure se présente.
Évidemment, mais c'est possible. Non, mais si tu fais le choix stratégique de dire je mets mon équipe C ou des gamins.
Je pense qu'on a plus vu d'équipes de Ligue 2 jouer la Coupe d'Europe, même si c'est arrivé que deux ou trois fois par le biais de la Coupe de France, comme ça a été le cas en France. Je pense que les deux
des
fois.
Nice
où, les deux fois où nice, c'est arrivé. Gagnant. Ça sera déjà plus que tout ce que ça arrivera avec la nouvelle formule, vos histoires-là.
Non, mais tu peux pas le nier, ça, Daniel.
Je peux pas nier que ça arrive deux fois dans l'histoire.
Oui, mais
que des clubs de Ligue 2 aient joué la Coupe d'Europe.
Mais non, mais ça n'a rien à voir. Le Paris Saint-Germain peut obligatoirement, et pas que le Paris Saint-Germain, hein, parce que là, on dit le Paris Saint-Germain, ça peut être le cas de Lyon. Oui. Au moment de se dire, bah, écoutez, le championnat de France, on en a ras la casquette.
Ils peuvent pas,
de toute façon,
ils peuvent pas, ils
on a la Ligue
la
des Champions.
Ils n'auront pas vu la concurrence resserrée.
Mais
ils n'auront pas
mais
à
rigoles.
Tous les coups la certitude
mais
d'être
dans les 6. Mais tu rigoles, il y a 6 sur 8.
Ils n'auront pas Lyon,
un club comme le PSG peut l'avoir.
Mais oui, mais même Lyon mettra les
ouais, il y a de grandes chances. Mais aujourd'hui...
Ou un club comme le Real, bon, ou le Barça.
Oui, mais même... Tu verras.
Est-ce qu'ils ont pas déjà la certitude aujourd'hui, le Barça, le Real, d'être dans les quatre du championnat d'Espagne? Tout le temps. Quoi qu'il arrive. Ben quoi qu'il se passe.
Oui, mais demain, ils peuvent dire,
comme
ben nous,
le PSG, le Bayern, oui,
mais
maintenant, le Lyon,
l'attractivité du championnat est importante pour eux. On est d'accord. Sinon, avec cette formule-là, ils s'en foutent. Ce que je veux dire, qu'ils finissent 8e, 9e du championnat d'Espagne.
L'exemple de l'Euroleague de basket,
c'est même plus leur problème.
L'exemple de l'Euroleague de basket qu'après Alexandre, c'est encore différent parce que l'Euroleague, c'est carrément la totalité de l'Euroleague qui est sur invitation. Là, il y a même pas de relégation, machin. Ouais. C'est genre,
déjà,
c'est le patron qui dit, toi,
déjà,
je te prends, toi, j'aime pas ta
vie. Comme les matchs en Grèce et tout, ça n'a rien à voir. C'est totalement autre chose. Mais bon.
23h57, messieurs, c'est fini pour ce soir. Hein, voilà.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien. Je sais pas. Je voulais vous dire au revoir, quoi.
Salut.
Attendez, demain. Demain, Jérôme est pas là parce que Jérôme est en Angleterre. Demain, il va se faire un petit derby de Manchester.
Derby, ouais,
sans, sans De Bruyne d'ailleurs. Hein, t'as vu qu'il est forfait pour derby
triste.
Entre City et United. Demain, on va parler tendance, des grandes tendances des entraîneurs. Vous allez voir, ça va être passionnant. On aura avec nous l'entraîneur de la Duchère qui veut défendre la formation à la française. Donc, je pense que
lui, il a dû avoir des bonnes notes pour défendre.
Ah bah oui, il est major de promo.
Ah bah voilà.
Et il va bien s'entendre avec Daniel.
Il est capable de défendre Francis Gillot.
Ah mais non,
on verra ça demain. Mais ça nous permettra de savoir un peu quelles sont les tendances développées en France. Est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on met en avant?
Il n'y a pas de tendance.
Bah, on va voir justement, Daniel. Là, on va être dans l'envers du décor. Ça va être passionnant. Ce sera demain soir dans l'after.
Posez-lui une question sur l'INF Clairefontaine. Comment c'est aujourd'hui? Juste. Il doit être au courant.
On lui demandera demain.
Merci.
Bonne nuit.
C'est important.
RMC. L'after foot.